Bonjour à toutes et à tous, René Lavergne avec Guo Guanghan aujourd'hui pour cette émission Onde de Chine du premier samedi du mois de septembre. Nous sommes le 3 septembre et nous sommes en direct. Bonjour Guo Guanghan.
Bonjour René.
Alors aujourd'hui, bien, c'est un beau moment encore, au-delà oui. du fait de la braderie de Lille, hein, que tu vas sans doute visiter ou que tu vas voir après-midi ou demain.
Oui, à demain, oui, plutôt.
Il y a des choses très intéressantes à y faire, j'imagine.
Bien sûr.
Il y a, donc, pour cette émission de Chine, nous avons choisi un thème complexe, on va dire, qui est Taïwan et la Chine.
Tout à fait, oui.
Et puis, peut-être qu'on peut dire aujourd'hui, dans l'actualité, on commémore quelque chose en Chine aujourd'hui. C'est pas la capitulation du Japon à la guerre, non ? C'est pas, y a pas ça ?
Le Japon, généralement, c'est le 15 août.
15 août, ouais. Donc, on est à peu près dans cette fin de,
ouais. de c'est période. C'est la rentrée scolarité.
Fin de période. Ouais. On peut dire aussi, on en parlera sans doute, que le Japon a été aussi une puissance coloniale à
bien
Taïwan.
Sûr, bien sûr, pendant 50 ans, oui.
Et pas seulement le Japon, hein. Enfin, il y a eu beaucoup de gens, enfin, beaucoup pays, de
y a,
pays.
Il y a Pays-Bas, il y a Pays-Bas.
Pays-Bas mmh. aussi, hein, ouais. Mmh. Voilà, donc Taïwan, on va refaire peut-être un petit point d'histoire.
Ouais.
Et puis d'actu aussi, hein, parce que c'est une actu qui est assez chaude en ce moment. Voir peut-être pourquoi elle est chaude d'ailleurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas calmer un peu le jeu ? Enfin, nous, c'est un peu notre propos, la pacification ouais. du monde, hein, évidemment.
Tout à fait, oui.
Et donc, voir en quoi Taïwan, actuellement, est au cœur de préoccupations, de réflexions, peut-être d'enjeux stratégiques qu'on pourra évoquer. Et là, je voudrais quand même qu'on revienne à l'histoire de la Chine d'une manière plus générale. Alors, c'est vrai que la Chine, elle a pris des formes très différentes en 5000, 6000, 7000 ans d'histoire. Évidemment, ça a beaucoup évolué. Donc Taïwan, c'est une, on va dire, une île, mais il y a des petites îles autour, hein, j'imagine. Il n'y a pas que Taïwan, une seule île, il y a des petites choses autour. Hein. Et donc, en fait, cette île, est-ce qu'elle a une identité en tant que pays à un moment donné dans l'histoire ?
Alors, quand on parle de Taïwan, aujourd'hui, comme tu dis, c'est au cœur d'occupation par le monde. Parce qu'on ne connaît pas Taïwan. Quand on ne connaît pas, ça devient un sujet très chaud. Voilà. Alors, quand on parle de Taïwan, il faut savoir qu'il est constitué par 21 îles annexes et aussi par 64 îles. Donc, Taïwan, aujourd'hui, qui est occupé par la République de Chine, fondée par Sun Yat-sen. Et Taïwan, aujourd'hui, est à peu près 36 000 km². Il y a 23 millions d'habitants. 98% ce sont des ethnies Han. Quand on voit la Chine continentale, l'ethnie Han, le peuple ethnie Han, qui représente 92%. Donc Taïwan, dans cette île, et le peuple ethnie Han, encore plus important, parce que c'est 98%. Oui. Il faut savoir que Taïwan, donc, quand on remontait 30 000 ans, Taïwan avec la Chine continentale, c'est le même bloc. Ah, ça s'est collé, ouais, ça s'est collé. Et à l'époque, il y a des peuples qui ont déjà sur Taïwan. À l'époque, on s'appelle Zuozhenren, Zuozhen. Zuozhen, c'est la même époque que Shandin Dongren, donc c'est près de Pékin, donc il y a l'ancien, on dit c'est près de l'histoire, donc il y a l'homme s'appelle Beijingren, donc l'homme de Pékin. Voilà. Il y a quelques dates importantes dans l'histoire de Taïwan. D'abord, pendant la période de trois royaumes, c'est-à-dire après Jésus-Christ, 230 ans, et le roi Sun Wu déjà envoyé un général s'appelle Wei Wen, dirigé plus 10 000 personnes, d'arriver à Taïwan. Donc ça, c'est la première fois en paquet à Taïwan. Donc ça, c'est trois royaumes. Et après, c'est à partir de fin du 5e siècle et début 6e siècle, ça s'appelle Sui Yangdi, c'est-à-dire avant dynastie Tang. Donc l'empereur s'appelle Yang Guang. Déjà envoyèrent deux troupes embarquèrent à Taïwan. Voilà, donc ça c'est dans l'histoire. Et après, dans l'histoire Tang, Song et Yuan, Yuan c'est Mongolie. Donc là, il y a sans arrêt, il y a des ethnies Han qui sont migrées à Taïwan. Le premier est l'installation d'une structure d'administration, c'est Nansong. Nansong, c'est-à-dire Song, dynastie Song. Il y a deux parties, il y a des Bei Song du nord, Nansong du sud. Nansong, c'est quelle époque? C'est le 1127 jusqu'à 1279. C'est Nansong qui s'installait une unité, une structure administrative, voilà. Près de Taïwan, ça s'appelle Penghu. Penghu, aujourd'hui, fait partie de Taïwan. Jusqu'à Mongolie occupait la Chine continentale, s'appelle Yuan Chao. Yuan Chao, c'est de 1292 jusqu'à 1295. Alors, c'est Yuan Chao qui a installé aussi un gouvernement à l'époque. Et jusqu'à dynastie Ming. Ming, donc, c'est une époque importante pour Taïwan. Ming, donc, il y a beaucoup de peuples chinois sont partis immigrer à Taïwan. Dynastie Ming, parce qu'il y a immense territoire, et spectaculairement, parce que 1644, la dynastie Ming a déjà remplacé par Manchu. En 1644.
Donc, les Manchous qui sont du nord, on va dire.
Oh, du nord-est, Chine, hein? Voilà. Nord-est. Par contre, la Chine du sud, Fujian. Fujian, c'est une province en face de Taïwan. Et là-bas, les gens, ils ne savaient pas parce qu'il n'y a pas de communication comme aujourd'hui, email ou bien.
Ben oui.
Voilà. Donc, ils ne savaient pas l'empereur déjà plus là. Qui est remplacé par, on dit, étrangère, Manchu. Du coup, donc, il y a un général, ça s'appelle Zheng Chenggong. Zheng Chenggong, on peut dire, c'est le roi de Taïwan. C'est lui qui a battu Pays-Bas, occupé à l'époque à Taïwan. Donc là, c'est jusqu'à 1662, Zheng Chenggong a réussi à épouser et les Pays-Bas partis de Taïwan.
À repousser les Pays-Bas. Ouais.
Voilà. Donc, ça, c'est. Quelques dates, c'est important. Donc, c'est le 1er février 1662. Et Zheng Chenggong, le roi de Taïwan, s'installait à Taïwan, qui établit différentes sortes de. On dit, c'est administration, l'école Confucius, temple de Confucius, etc. Oui. Par contre, dans ce cas-là, bien sûr, il est au courant que son empereur n'est plus là et il a essayé de contre-attaquer Manchu, passer la mer pour attaquer Fujian, Guangdong jusqu'à Nankin. C'est ça, donc, il n'a pas pu, à la fin, il n'a pas pu réussir la guerre et il est mort à Taïwan. Et c'est son fils, s'appelle Zheng Jin, qui est devenu le 12e roi de Taïwan, continue à reprendre son relais jusqu'à son petit-fils à l'époque, bon, assez faible, donc dans ces cas-là, il est là, on dit, c'est soumise à la direction ou bien à la dirigeant de Manchu. Du coup, donc jusqu'à 1684, la dynastie Qin, dirigé par Manchu, occupé entièrement Taïwan. C'est ça, donc, dans ce cas-là, dynastie Qin a installé différentes structures à Taïwan.
Alors, je vais revenir dans l'époque d'aujourd'hui, parce qu'on dit qu'à Taïwan, il y a alors, les gens du Kuomintang qui sont venus, etc. On va repasser cette histoire en vue après. Mais il y a aussi des autochtones. On dit des autochtones, c'est-à-dire des gens qui étaient là avant le Kuomintang. Donc, eux, ils sont des descendants du roi, etc., dont tu parles ?
Voilà, dans ces cas-là, il y a différentes sortes de peuples. Hein. Donc, d'abord, il y a des... Parce que le peuple de Taïwan, aujourd'hui, encore des anciens Taïwanais.
Oui, mais des anciens qui étaient structurés dans le cadre de on va dire, de l'époque dont tu parles, avec un roi, etc.
Oui, donc ça, ça encore existe. Donc, parce qu'à Taïwan, il y a très grand temple de roi de Zhen Chenggong. Par exemple, à Taïwan, il y a beaucoup de rues encore nommées avec son nom. Mm-hmm. Par exemple, il y a une université qui s'appelle Chenggong Dashue. L'université de Chenggong utilise donc son prénom de roi Zhen Chenggong. Voilà. Il y a beaucoup de rues, le nom encore, il y a temple, il y a beaucoup. Ensuite, donc, par exemple, à Taichung, il y a un général dont sa maison, c'est Su Dynasty Qin. À l'époque, il est un général dirigé l'armée terre, l'armée marine. Voilà. Sa maison, encore là, s'appelle Monsieur Lin.
Mm-hmm. Donc, on va expliquer de manière plus détaillée après la composition de la population de Taïwan et notamment les différents partis qu'on y trouve peut-être aussi, hein, parce qu'il y a des tendances très différentes. Hein. Parfois, ça change un peu. Et puis
oui,
là, on
sûr,
est dans
oui,
une
tout
évolution
tout à fait, oui.
dont on va parler. On va donner quand même le moment clé qui est peut-être l'origine des difficultés actuelles. C'est qu'est-ce qu'on appelle Chine.
Voilà, ça
parce
c'est.
Que, en fait, bon, il y a eu le moment où il y a eu le premier président de la Chine.
Mmh.
C'était tu sais son nom, le premier président.
Ben, le premier donc c'est fondé en 1912.
Oui.
C'est Sun Yat-sen. On
oui.
peut dire c'est Sun Yat-sen qui a fondé la République de Chine
voilà.
jusqu'à aujourd'hui à Taïwan.
Donc ça. La République de Chine en Chine, à l'époque,
oui.
c'était toute la Chine.
Toute la Chine.
Il y avait la Chine, dont Taïwan, c'est ça.
Absolument, parce qu'il faut savoir donc, qu'en 1912, quand l'empereur, ou à l'époque c'est l'impératrice, qui cédait son empire aux révolutionnaires Sun Yat-sen, à l'époque, il a dit donc, on va céder toute la Chine, y compris Taïwan. Au gouvernement de la République de Chine.
Mmh. Alors, il y a deux grands personnages, donc Sun Yat-sen, qui est toujours apprécié par tout le monde, on va
tout
dire.
Tout le monde, hein. Y compris communiste.
Absolument. Mmh. Et puis, il y a une deuxième personne, un personnage important aussi, c'est Chiang Kai-shek.
Chiang Kai-shek, voilà. C'est son successeur, oui.
Mmh. Donc, le problème s'est posé à un certain moment d'une guerre civile en Chine, on
peut
résumer.
Entre 45 et 49, voilà.
Voilà, entre 45 et 49, donc juste après la guerre, on peut dire.
Après la guerre sino-japonais, oui.
Oui, voilà. Et donc, à partir de là, il y a eu des oppositions politiques dans le pays et avec une partie, on va dire, nationaliste, entre guillemets,
oui, oui.
Que dirigeait Chiang Kai-shek. Et puis une partie communiste, hein,
communiste
de,
oui.
donc dirigée par Mao Zedong. Je pense que à un moment donné, il n'était pas très puissant, Mao Zedong. Il a démarré petit et il a gonflé au fil du temps ses troupes en allant chercher des paysans, en les formant, en les intégrant, en les motivant de différentes manières. Et il y a eu des confrontations majeures avec, on va dire, l'armée de Chiang Kai-shek.
Oui.
Et ça a fini, si je peux résumer, un incident, celui de Xi'an peut-être, où
oui.
Chiang
oui,
Kai-shek
oui.
a été battu. Et toute son armée, et puis tous les gens qui ont voulu le suivre, sont partis en grande partie à Taïwan, c'est ça?
Voilà, tout à fait, oui.
Donc, à Taïwan, on a... à la fois les autochtones, qu'on appelle donc ceux qui étaient là avant, mmh. ceux qui sont venus après, donc de la Chine de l'époque qui combattait le communisme de Mao Zedong, et eux sont arrivés en masse quand même, ça fait du monde d'un seul coup qui est
oui.
arrivé, hein, bien
oui.
sûr. Et on retrouve encore maintenant donc, cette double composition à Taïwan de personnes qui sont donc issues des anciennes générations de la Chine, et puis d'autres... qui sont arrivés par leurs ancêtres, hein, qui sont venus emportés par Chiang Kai-shek.
Mmh.
Donc, Effectivement, quand on dit nationaliste, c'est assez intéressant de dire que Chiang Kai-shek était nationaliste, c'est-à-dire que pour lui, il a toujours considéré que la Chine, c'était lui, enfin, qui représentait la Chine. Oui. Et je ne sais pas s'il peut, il considérait aussi que c'était la suite des Mandchous, ou je ne sais
oui,
pas.
Bien sûr, oui, hein,
bien
tout
sûr.
À fait,
hein. Ouais. Et donc, Mao, lui, a pris le pouvoir d'une certaine manière, hein, puisqu'il a battu dans le cadre de cette guerre civile. Il a été vainqueur quand même, il faut dire les choses. Hein. Les autres ayant fui, il a récupéré l'espace. Sauf Taïwan, bien sûr, qui était un refuge d'une certaine manière pour ceux qui n'étaient pas communistes à l'époque. Et donc, le problème, c'est, on va dire, justement la reconnaissance de ce qu'est la Chine et l'identité chinoise actuellement. C'est-à-dire que chacun des deux partis, encore maintenant, dit que la Chine, c'est lui. En gros, que la Chine actuelle continentale considère que Taïwan, c'est la Chine aussi. Et les nationalistes de Taïwan considèrent qu'ils ont perdu la guerre civile, mais qu'ils ont l'ambition de reconstituer la Chine à partir d'eux-mêmes. Donc, on est sur deux blocs qui s'opposent, vraiment. Et actuellement, on est en plus dans des évolutions qui sont peut-être favorisées, enfin des agitations peut-être, on peut dire ça aussi, par des influences étrangères.
Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr.
Donc, voilà. On peut aussi dire, alors pour un petit point d'histoire, hein, qu'à l'ONU, la Chine est représentée par la République populaire de Chine, la RPC.
C'est après...
Actuellement, hein, je parle.
Actuellement, donc ça, c'est après 1971.
Voilà. Alors qu'avant, c'était la République de Chine.
Voilà, c'est Chiang Kai-shek.
Chiang Kai-shek. Et donc, je crois qu'en fait, je crois qu'on leur a proposé d'être à deux, mais il n'a pas voulu Chiang Kai-shek. Il a dit, c'est moi ou personne. Je crois que c'est une histoire comme ça.
Problème du pouvoir.
Voilà. Donc, pour l'instant, en tout cas, à l'ONU, il n'y a pas la République de Chine, disons Taïwan, pour résumer. Il y a la RPC, donc la République populaire de Chine, qui, elle, est un membre important de la communauté, bien sûr.
Bien sûr, oui.
Et donc, il y a eu aussi, pour que la Chine populaire, la RPC, soit reconnue comme un membre, il y a eu aussi des personnalités, des pays, qui ont été plus ou moins rapides à reconnaître la RPC à la place de Taïwan.
Oui.
Donc, on peut citer chez nous, hein, en France, par exemple, puisqu'on est en France, De Gaulle n'a pas été le dernier a affirmé qu'il reconnaissait la RPC comme la Chine.
Oui.
Et donc, à partir de là, ça peut expliquer aussi les liens, on va dire, d'amitié, entre guillemets, entre la France et la Chine, puisqu'il y a cette reconnaissance qui a été importante aussi comme soutien à la RPC.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr.
Donc, il y a quelques pays qui reconnaissent Taïwan en tant qu'entité de pays. Par contre, pour les autres, on peut dire que Taïwan, ça s'appelle une république. On peut dire une république, puisqu'ils ont un fonctionnement d'une république.
Monsieur,
mais
oui.
Ce n'est pas un pays identifié comme étant la Chine. Donc, on est actuellement dans des formes de crispation, d'une certaine manière, et puis aussi de lutte d'influence, et puis aussi des difficultés pour le monde entier, on va dire, à comprendre peut-être les choses. C'est pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui. On essaie de mettre les choses à plat sans passionner le débat,
tout
puisque
à fait,
c'est
oui.
déjà assez passionné ailleurs. On veut plutôt calmer le jeu. Et puis donc voir en quoi... Alors, par exemple... À Taïwan, les États-Unis n'ont pas d'ambassade.
Non.
Ils ont un bureau de représentation.
Culturel.
Culturel, voilà. Les Anglais, je pense que c'est pareil.
Tous pareils.
La France aussi. Il n'y a pas... Évidemment, quand un étranger veut aller à Taïwan, il demande un passeport à l'entité taïwanaise. Hein,
oui.
Bien sûr, il ne demande pas à la RPC.
Non.
Donc, il y a un côté administratif, un côté fonctionnement autonome de Taïwan. Et puis, il y a le fait que la Chine considère que c'est un membre de sa famille, comme d'autres provinces.
Absolument, oui.
Et donc, si j'ai bien compris, hein, le discours de Xi Jinping actuel, c'est pas dit comme ça, mais en gros, c'est bon, on a été privé d'un membre de notre famille, on voudrait le regrouper. C'est un peu ça, et reconstituer une Chine avec tout le monde, avec tous les Chinois, on va dire. Hein. Évidemment, les habitudes et les évolutions font qu'à Taïwan, ce n'est pas toujours bien vécu. On peut dire ça comme ça, et qu'il y a des réactions à ça. Mais au-delà de ça, il y a aussi des éléments géopolitiques qui font que Taïwan a pris une dimension très importante dans le monde, notamment par sa capacité industrielle. On peut parler des semi-conducteurs, etc.
Tout à fait, oui.
Et puis aussi... que dans cette zone-là, il y a d'autres pays que Taïwan en Asie du Sud-Est. Et il y a aussi des influences américaines de contrôle ou de maîtrise des mers, enfin des lieux de passage, des bateaux, etc. Donc là, en ce moment, on est sur un moment de tension où chacun montre un petit peu ses muscles. Et ce qui pose problème de sécurité dans le monde, hein. On peut dire que si ça tousse à Taïwan, ça enrhumera sans doute d'autres pays. Donc voilà, on est dans un moment de tension. Bien sûr, nous sommes pour nous l'amitié entre les peuples et que chacun vive bien avec ses voisins, ses amis, sa famille. Et j'espère qu'on assistera dans les 10 prochaines années à un accord, pas amiable, mais naturel presque, de
par la paix,
recomposition
c'est bien.
D'une famille plus large, on va dire, réélargie.
Tout à fait, oui. C'est vrai. Donc, vous avez raison de parler de ça. Je pense que pour comprendre, mieux comprendre la situation entre Taïwan et la Chine continentale, n'oubliez pas, il y a dialectique chinoise. C'est-à-dire, donc, quand il y a une longue division, il y a une longue unité. Quand il y a une unité, il y a une division. Donc, ça c'est le slogan, ou c'est la philosophie, c'est leur conscience pour tous les Chinois. Voilà. Et ensuite, il faut comprendre l'histoire chinoise. L'histoire chinoise, chaque empereur chinois est presque le militaire. Donc, leur rôle, occuper, conquérir et territoire, c'est leur mission. Ça, c'est aussi c'est important pour comprendre la situation entre la Chine et Taïwan. Et autre chose, il faut comprendre, avant 1949, quasiment la Chine, il y a une seule parti nationaliste. Un seul gouvernement, donc c'est le gouvernement de la République de Chine, dirigé par Chiang Kai-shek. Par contre, 1945, la fin de la guerre pacifique, la Chine, c'est vrai, malheureusement, comme vous dites, donc on rentre dans la guerre civile. Le communiste a réussi la guerre, Chiang Kai-shek, qui s'enfuit à partir à Taïwan, parce que Chiang Kai-shek, à l'époque, il y a différents choix. Soit il partit à Philippines, c'est un choix. C'est aussi c'est partir près de Japon, parce que près de Japon, il y a des îles, à l'époque, qui font partie de la Chine. Mais Chiang Kai-shek, à l'époque, il est parti à Taïwan. Dans les années 50, il faut savoir, géopolitiquement, les États-Unis, à l'époque, presque abandonné Chiang Kai-shek, établir une relation avec Mao Zedong, communiste. Mais dans ce cas-là, il y a une coïncidence, c'est-à-dire la guerre coréenne. La guerre coréenne, Mao Zedong a pris une décision, participer à la guerre, aider Corée du Nord et puis contre américaine. Dans ce cas-là, les jeux ont changé, les jeux ont complètement changé. Dans ce cas-là, Mao Zedong, impossible de réaliser sa mission pour occuper et conquérir Chiang Kai-shek de Taïwan. Dans ce cas-là, Taïwan avec la Chine, ça va devenir une séparation militaire. Jusqu'à 1960, Chiang Kai-shek établit le plan de contre-attaque de la Chine continentale. Si Taïwan est toujours occupé par le parti nationaliste, il a toujours envie de revenir à la Chine continentale. C'est comme dans l'histoire de dynastie Ming, quand le roi de Taïwan, Zheng Chengong, c'est un général de dynastie Ming, qui veulent restaurer la dynastie Ming, attaquer Manchu. C'est pareil. Donc, le roi de Zheng Chengong a déjà réussi et occupé canton Fujian. Jusqu'à va pousser son armée jusqu'à Nankin. Mais à la fin, c'est à Nankin qui a perdu la guerre. Donc, Chiang Kai-shek, donc, sans arrêt, envie de rentrer à la Chine continentale parce qu'ils sont tous viennent de continentale. Mais je pense que le compliqué ou le simple, c'est entre les deux partis. Parti communiste, parti nationaliste. Avec les deux pouvoirs législatifs, ou bien on dit c'est les confrontations, les deux partis. Alors, Mao Zedong représente le parti communiste, bien sûr, envie de réussir la guerre contre le parti nationaliste, et Chiang Kai-shek, qui n'a pas envie d'être perdant. Il a envie de regrouper ses forces contre-attaque Mao Zedong. C'est pour ça donc, que jusqu'à 80, entre les deux parties, sans arrêt, des feux ouverts, les feux ouverts. On lançait les canons, etc. Oui. Et Taïwan, jusqu'à 1987, le fils de Chiang Kai-shek envie d'arrêter le conflit. Donc, c'est lui qui ouvrir la partie, c'est-à-dire donc essayer de mettre en place le système démocratique. Parce que son fils, il a dit, il n'y a aucun parti politique peut être durable. Donc, c'est lui qui ose abandonner son pouvoir. Dans ce cas-là, entre les deux côtés, on n'a plus de feu ouvert. Et puis, on a commencé à recontacter, faire des échanges. C'est pour ça, donc, à partir de 87, d'abord, 87, ça, c'est important, parce que Deng Xiaoping, avec le fils de Chiang Kai-shek, ils sont tous les deux à Moscou dans les années 20. Ils sont camarades, Et puis, Deng Xiaoping a osé de changer le système politique chinoise vers économie du marché. Et là, beaucoup étonné par le fils de Chiang Kai-shek qui s'appelle Jiang Jingguo. C'est pour ça que Jiang Jingguo, avec Deng Xiaoping, je pense aussi qu'il fait une compétition. De toute façon, entre le parti communiste et le parti nationaliste, tous les partis sont fondés par soviétiques. À l'époque. C'est tout, c'est comme un humour. Donc, tout le temps, en concurrent. Quand Chiang Kai-shek, dont son fils, a su que la Chine continentale a osé abandonner leur système politique lutte contre classe à l'époque, donc lancé par Mao Zedong, et puis Jiang Jingguo, dans ce cas-là, il fait un grand pas. Donc, il a abandonné son propre pouvoir, établir le parti l'opposant. Ça, c'est déjà une chose. Voilà. Et à partir de ce moment-là, troisième parti arrivé. Donc, soi-disant parti indépendantiste. S'il n'y a pas d'indépendantiste entre les deux partis, ça peut être une unification. Ça peut être. Et parce que la partie nationaliste jusqu'à presque donc 96. Et là, entre les deux côtés, on a bien fait des échanges et Taïwan a permis à ses peuples de rendre visite familialement à la Chine continentale. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'échanges à l'époque. Il y a beaucoup de Taïwanais qui sont retournés à la Chine continentale. Par exemple, à Suzhou, il y a très grandes raisons économiques, industrielles. Quasiment, ce sont des entreprises taïwanaises. C'est pour ça que les Taïwanais qui arrivent à la Chine continentale font beaucoup d'économies. Et aujourd'hui, il faut savoir, les affaires commerciales, l'import-export taïwanais, les entreprises de Taïwan en Chine qui représentent deux tiers. Mmh. C'est très important.
Est-ce que je peux faire un petit point géopolitique de cette région, hein? Donc, on a compris, il y a deux blocs, on va dire, de la Chine qui s'opposent. Si on voit à côté, il y a la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc, la Corée du Nord étant communiste et la Corée du Sud un petit peu dans un système qui est comme une république de Taïwan actuellement. Enfin, comme un peu ce mode de fonctionnement, une démocratie un peu comme... Taïwan. Et puis, il y a le Vietnam qui, lui, est resté, il s'est reconstitué d'un seul bloc avec une direction quand même un peu communiste, non ?
C'est communiste, encore communiste. Oui, hein. Mais c'est communiste réformiste, voilà. On peut dire ça.
Donc, on va dire que si on prend l'exemple de la Corée, il y a encore, je pense, un gros traumatisme dans la population par rapport à la séparation des deux. Enfin, des deux pays maintenant, hein, Corée du Nord, Corée du Sud. Et le metteur en scène qui a le mieux rendu compte de ça, c'est Kim Ki-duk. Mmh. Kim Ki-duk qui est mort il y a 2 ans du Covid. Mmh. C'est incroyable. Et donc, il faisait souvent ces films où il avait une première histoire comme ça qu'on pouvait accepter. Mais au fond de ça, il y avait toujours cette séparation entre les deux pays. Peuple, enfin le même peuple, mais séparé, qui a été vécu comme un traumatisme. Donc, est-ce que du côté du Vietnam, bon, tout le monde est ensemble, alors je ne sais pas si tout le monde est content, mais tout le monde est ensemble.
Apparemment.
La Corée, je ne sais pas s'il y a des ambitions de l'un comme de l'autre de fédérer ou de regrouper les deux Corées un jour dans un seul pays. Il y a eu... On va dire des rapprochements minimum. À un moment donné, il y a eu des petits signes d'ouverture, mais bon, on n'en est pas là. Et puis, il y a la Chine, donc, qui... alors, à un moment donné, c'était peut-être pas forcément très... je veux dire, la préparation d'une intégration globale des deux était pas encore... Quand la Chine n'était pas à un niveau économique élevé... pensable. Là, effectivement, comme tu le disais, hein, il y a des échanges économiques très importants entre Taïwan et la Chine et ils travaillent ensemble depuis longtemps. Hein. Et donc, c'est vrai que les Américains n'aiment pas trop cette complicité, mais ce partenariat économique, hein, puisqu'ils voudraient un peu couper Taïwan de la Chine continentale. Et donc... l'idée, ça aurait pu être à un moment donné que, compte tenu d'une certaine forme de vie qui a été très améliorée en Chine, pour notamment les classes moyennes qui n'existaient pas trop avant et qui ont maintenant un vrai statut social, un pouvoir d'achat, etc. Bon, on peut toujours parler de démocratie ou pas, mais je veux dire, pour les Chinois des classes moyennes, bon, on ne peut pas dire qu'ils soient traumatisés par le fait qu'il n'y ait pas une grosse démocratie. Enfin, ils vivent correctement, et puis peut-être comme les Taïwanais actuellement. Donc, il y a peut-être ce côté un petit peu qui est un petit peu identique dans le mode de vie, peut-être, qui aurait pu favoriser un rapprochement plus grand. Mais il y a une influence américaine, alors on va dire propagande si on veut dire un autre terme, tout dépend, hein, qui est d'essayer d'attirer à ce qu'on appelle l'Occident, hein, on va résumer, Taïwan pour le garder en tant que ressource essentielle pour l'industrie notamment, mais aussi en tant que lieu stratégique.
Oui, bien sûr, vous analysez comme ça, c'est très bien. Moi, je pense que, donc, en gros, il y a deux volumes de travail dans ce problème. Premier, un volume, on dit, c'est macro. Macro, c'est entre les États-Unis et les Soviétiques. Et aujourd'hui, donc, c'est les Russes. Donc, c'est les deux pays qui se battent, qui se mettent en concurrence. C'est les deux, géopolitiquement, géostratégiquement, à essayer d'occuper maximum leur territoire. Par contre, on dit que c'est les micro, donc c'est la Chine continentale et la Chine de Taïwan. C'est les deux parties, on dit, comme tu dis, c'est les deux blocs qui se mettent en concurrence. Alors, généralement, les deux parties, avant, on n'est jamais un problème. Jamais un problème, donc, dire Chine, simplement, donc, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir législatif. Parce que tous les Taïwanais considéraient, nous sommes l'origine du système chinois. Parce que c'est fondé par Sun Yat-sen en 1912, la République de Chine. Et vous, donc, c'est la République populaire de Chine. Donc, bon, nous, ça, c'est le père. Voilà. Donc, le Taïwanais, il pense que son pouvoir, c'est beaucoup plus titulaire. Et en face, la Chine continentale, non. Voilà. Et la Chine continentale, il a dit, oui, même je viens plus tard, mais c'est moi qui gagne l'argent, c'est moi qui gagne la guerre. Mm-hmm. Voilà, donc j'ai droit, prendre tout. Voilà. Donc ça, c'est le jeu d'enfance, c'est le jeu de la guerre. Voilà. C'est le jeu, on peut dire, de Sun Tzu aussi. Il faut savoir que quand on parle de la Chine composée par la Chine continentale et la Chine de Taïwan. Américaine, les États-Unis, c'est vrai, il a joué un rôle. Ce n'est pas aujourd'hui, hein. C'est pendant la guerre pacifique, dans les années 40, la délégation américaine, dont l'armée, à l'époque, dirigée par Stewie. Ils sont déjà arrivés à Chongqing et aussi à Yan'an, rencontrer Mao Zedong, parce que général Stewie, à l'époque, il pense qu'il a donné un rapport à leur président américain en disant « Future Chine sera Mao Zedong, ce n'est pas Chiang Kai-shek. » Voilà. C'est ça, donc, américain qui est mal compris ou qui fait un choix volontairement de son côté. Voilà. C'est ça, donc, la Chine... À l'intérieur, il y a deux bras, il y a deux doigts. Un doigt, c'est américaine. Un doigt, c'est Staline, soviétique. Donc, c'est les deux à essayer de mener leurs doigts sur le territoire chinois. C'est ça, donc, je pense que, de mon côté, nous, Chinois, en quelque sorte, c'est victime de tout. Grand gérant, voilà, de victimes américaines, dont sa politique d'expansion, politique soviétique à l'époque Staline. Voilà. Et après, donc, nous sommes un peu gênants de vivre dans cette situation très délicate.
Alors, je vais diffuser une chanson maintenant qui symbolise assez bien l'ouverture de la Chine à l'Occident.
Oui.
Et la perméabilité entre Taïwan et la partie du peuple continental de Chine.
D'accord, okay, c'est bien.
风吹来，梦在远方化成一缕香，随风飘散你的模样。菊花残满地上，你的笑容已泛黄，花落人断肠，我心事静静躺，北风乱夜未央，你的影子剪不断，徒留我孤单在无眠深霜。
Voilà, pourquoi cette chanson? Alors, tu sais, je suis allé souvent en Chine, hein, et dans les années, enfin, venir vers les années 2008, quand il y a eu les Jeux Olympiques, tu vois, cette chanson était très, très, très populaire en Chine continentale. Et j'avais à l'époque beaucoup entendu de chanteurs sans savoir qu'ils étaient taïwanais, mais qui avaient vraiment inspiré beaucoup la jeunesse chinoise continentale.
Oui, bien sûr.
Et donc, j'y trouvais bien sûr une vraie modernité par rapport à la musique que je connaissais d'avant en Chine. Et je m'étais dit que forcément, même dans les choix des mots, des tonalités, des expressions, on ressent une certaine américanisation des chansons dans le ton. Et donc, pour nous, si on ne connaît pas l'anglais, on pourrait imaginer que c'est une chanson, on va dire, universelle, hein, c'est tout ce genre de chanson-là. Et donc, j'ai trouvé que c'était un apport culturel et en même temps une évolution qui se faisait déjà d'une ouverture culturelle, en fait, de la Chine continentale. Hein. Alors, bien sûr, en Chine continentale, il y a de grands chanteurs aussi, hein, que je connais par ailleurs, et qui n'ont pas cette approche-là. Mais la mode américaine, genre R&B et toutes ces choses-là, c'est arrivé notamment avec ce chanteur qui s'appelle, alors moi je vais dire Jay Shaw parce que c'est comme ça qu'il est écrit en Occident. Mais on sent toute cette culture qui est aussi, hein, nous on l'a vécu en France, une forme de propagande américaine qui s'est glissée dans le style artistique, et pourquoi pas, il ne faut pas être fermé non plus, et qui a, pas noyé, mais qui a influé beaucoup sur une jeunesse. Alors, peut-être aussi en termes de mode de vie, pourquoi pas, d'occidentalisation, au moment où Deng Xiaoping avait fait sa grande ouverture économique aussi.
Oui, bien sûr. Oui. Moi, je pense que donc, vous avez raison d'utiliser la chanson. Dans ma jeunesse, à l'université, à l'époque, quasiment la chanson taïwanaise qui a influencé massivement à la Chine. Et, par exemple, très connue, c'est la chanson, on dit, c'est la chanson des campus. Chanson de campus de Taïwan qui a influencé presque toute la jeunesse. Dans ma jeunesse, donc dans les années 80, moi-même, je connais à peu près centaines de chansons de campus. À l'époque, on ne chantait uniquement des chansons de Taïwanais. Voilà. Et une chanteuse de Taïwan s'appelle Deng Li Jun. C'est très connu dans le monde entier. D'ailleurs, il a un petit copain français. Donc, ils sont allés à Chiang Mai, Thaïlande. Et après, malheureusement, donc, Deng Li Jun, donc, qui est malade, est décédé à Thaïlande. Ensuite, donc, il y a beaucoup de chanteurs, compositeurs taïwanais, par exemple Hou Dejian. Ils ont tous composé des chansons en Chine pour que tous les Chinois chantent leurs chansons. Ouais. Et je pense qu'entre le peuple, la Chine continentale et la Chine de Taïwan, on n'a pas grande différence. On a presque même culture, parce que c'est la culture Confucius, même langue mandarin, et on a même geste, même culture. Et entre nous deux, on se sent pas étrangère. On a tous très, très amicaux, très amical, très, très aimable. Et entre le peuple, on se sent pas, c'est le tout pays. C'est les deux pays. On se sent, c'est le même.
Alors, pour te dire, moi, j'ai ressenti plutôt une sympathie entre la Chine continentale. Enfin, je parle des gens. Hein. Par contre, une hostilité par rapport au Japon, beaucoup plus grande. Hein. Là, vraiment, une hostilité parfois, mais pas du tout avec Taïwan, enfin, en tant que peuple.
Non, absolument. Ça, c'est très, très... C'est très, on dit très sympathique, très gentil avec les gens taïwan, parce que dans notre éducation, quand on est petit, on a toujours parlé de la culture de Taïwan. Donc Taïwan, pour nous, considéré comme l'île, donc il y a mort, c'est écrit par portugais, donc est fameuse. Fameuse, donc c'est belle, c'est la beauté. L'île, voilà.
Oui, en fait, c'est ça, le nom de Formose, c'est parce que l'île était belle qu'on l'a
voilà,
appelée comme ça.
C'est un mot portugais.
Portugais, oui.
Donc, tout à l'heure, je citais le nom général de Dynastie Ming, Zheng Chenggong. Zheng Chenggong, dans beaucoup de documentation anglaise, s'appelle donc le roi de Formose.
Mm-hmm.
Ouais. Donc c'est Zheng Chenggong.
Et donc le mot Formose veut dire belle île, quoi, quelque chose
belle-île,
comme
voilà,
ça.
Belle île, voilà, c'est belle île. Vous prononcez bien.
Voilà, donc c'est vrai que quand on creuse un peu, on trouve, bon, si on prend un peu de recul, hein, cette histoire très complexe, très intéressante aussi, hein, on voudrait que ça se passe bien, évidemment toujours mieux, mais on sent que l'histoire n'est pas finie et que tout cela évolue. Peut-être tu peux nous présenter une chanteuse qui s'appelle Song Tsui-ying.
Voilà, donc avant que je présente cette chanson, je voudrais retenir une chose importante, le thé.
Ah, excuse-moi.
Le thé de Taïwan.
J'ai oublié. Alors, voilà. Tu sais, j'ai découvert le thé de Taïwan en Chine continentale. Et j'ai trouvé, c'était un cadeau qu'on m'avait fait, j'ai trouvé ça incroyable.
Bien
je veux dire, un thé fabuleux. Donc c'est Oolong, c'est ça?
C'est Oolong, voilà.
De la montagne de Taïwan.
Voilà, l'histoire du thé de Taïwan, vous voyez, parce que Taïwan, il n'y a pas de thé. Le thé, ça se vient de Fujian, en face.
Mm-hmm.
Vous voyez, donc Taïwan, avec la Chine, une relation très étroite qu'il y ait, y compris certaines de structures agricoles, il y a certaines de plantations agricole, voilà. Donc, Fujian, essentiellement, qui fabriquait le thé rouge et le thé Oolong. Mm-hmm. Et le thé de Oolong, qui est spécialiste à Taïwan. À Taïwan, dans cette île, il y a toutes sortes de thé. À Taoyuan, c'est dans le nord, Taoyuan, donc c'est près de la capitale, on fabriquait thé rouge, ça s'appelle Hongcha. Il y a marque très connue, ça s'appelle la beauté orientale. Dans le milieu, ça s'appelle Taichung. Taichung, il y a une ville, ça s'appelle Nantou. Nantou, là-bas, c'est fameuse thé Oolong. C'est très connu.
Alors, c'est vrai qu'on peut dire que le thé de Taïwan est très pur en général. Hein,
bien sûr,
parce
bien sûr,
que
parce
la
que
montagne, le climat excellent. Est excellent.
Le climat, c'est excellent.
Hein. Et donc, ces thés, je les trouve, moi, très parfumés.
Bien sûr, très parfumé, parce que, pourquoi? Parce que Chiang Kai-shek, à l'époque, quand il a eu un accident de voiture, il est dans la montagne, il s'appelle Li Shan, qui se repose. Quand Chiang Kai-shek à Li Shan, il a trouvé cette montagne, il n'y a rien. Donc, il a fait planter les arbres pommes, poires. Mm-hmm. C'est pourquoi, donc, le fleur pomme, poire, avec le thé, qui est associé ensemble. Quand on boit du thé, on se sent, on déguste le goût du fruit.
Ah oui. C'est vrai que le thé, c'est un moment convivial et de vie, on va dire, entre amis, en famille.
Absolument,
c'est
oui.
Un moment de partage aussi.
Tout à fait.
Hein? Donc, on souhaite bien sûr que l'idée de la maison du thé, du musée du thé à Lille se développe.
Bien sûr, donc dans le musée du thé de Chine à Lille, bien sûr, il y a une grande partie, c'est le thé de Taïwan.
Bon, donc tu nous annonces les bonnes nouvelles dès que tu les as.
Absolument, absolument.
Et okay. On
donc je parlais un peu de ce qu'on m'a posé
de
question sur la chanson.
Alors, de Song Tsui-ying, parce qu'en fait, on va se quitter en chanson, hein, bien sûr. L'émission se termine, ça ne dure qu'une heure, cette émission de Chine, comme chaque premier samedi du mois.
D'accord.
Donc là, je ne sais pas si le prochain, ce sera, je crois que c'est le 1er octobre, la prochaine émission.
Ah, c'est
on a un sujet
bien.
Là, non?
Alors, On va écouter cette chanson
qui
s'appelle « Ali Shan de Gouniang », c'est-à-dire des mademoiselles de Ali. Ali, donc, c'est le nom de la montagne. Donc, c'est une chanson populaire, typique de Taïwan.
Voilà, on va se quitter sur cette chanson illustrée par des danses aussi. Hein.
Oui, bien sûr. Ouais, avec les habits très traditionnels.
Voilà, donc je ne saurais pas vous dire en chinois le titre, il est écrit en chinois là, mais elle s'appelle la chanteuse Song Zuyin,
c'est une grande chanteuse chinoise. Oui.
Voilà, merci Guogang pour cette belle émission.
Ouais, je t'en prie.
Et puis on se retrouve quand tu veux.
Avec grand plaisir.
Bonne journée à toutes et à tous sur Radio Campus 106.6 FM, campuslille.com et en DAB sur la métropole lilloise et sur l'Artois. Et vous pouvez réécouter cette émission sur le site campuslille.com dès la fin de 7h, on va dire, et par la suite sur le site ondedechine.fr. Voilà, je pense qu'on a été assez complet dans une heure pour présenter un petit peu ce beau pays qu'est la Chine avec ses différentes nuances et composantes.
Oui,